Ah ben on peut attaquer.
Allez.
Donc on nous a demandé de venir vous parler de ce thème étrange qui est celui du robot steampunk. D'autant que l'image du robot, c'est vraiment la figure habituelle, la figure iconique de l'imaginaire science-fictif. Le robot est un thème des origines qui a accompagné la science-fiction à travers son histoire, qui a évolué avec elle, avec son lectorat et avec son temps. Et il n'est absolument pas étonnant de voir que le steampunk s'est emparé à sa manière du robot pour en explorer un petit peu les caractéristiques et en revitaliser à sa façon le thème. Pour les non-spécialistes, on va présenter ce qu'est le steampunk en moins de 15 mots.
Un peu plus, ça va être compliqué.
Donc le steampunk est une esthétique rétro-futuriste qui vise à imaginer ce que serait le passé si le futur était arrivé un poil plus tôt. Autrement dit, j'imagine un 19e siècle où la machine, l'industrie, l'informatique, la technologie auraient fait un bond en avant considérable. En ayant à l'idée que le steampunk est aussi une forme de la citation. Quand je lis une œuvre steampunk, je ne m'étonne pas que Jules Verne puisse apparaître et que Jules Verne puisse croiser Nemo ou un autre de ses personnages. Et après, si Victor Hugo survient, tout va très bien. Donc,
ou pas.
Quant au robot, ma foi, c'est une invention assez récente. Je vous rappelle que le robot a surgi au théâtre en 1923 dans une pièce de Karel Čapek qui s'appelait Rour. Et que l'on peut schématiser affreusement l'histoire du robot en deux grandes périodes. Avant la Seconde Guerre mondiale, on a le héros compagnon, parfois un petit peu inquiétant, mais ça va être surtout un robot dans lequel va s'inscrire toute une foi en un avenir meilleur, avec comme maître tutélaire Isaac Asimov, avec les lois de la robotique. Mais après 1945, la bombe a révélé tout le potentiel destructeur de la science, et dans l'imaginaire, l'attitude envers le robot a souvent été plus méfiante, où cette fois, on a vraiment vu apparaître des figures de robots qui non seulement pouvaient prendre la place de l'homme pour des tâches pénibles, mais pouvaient prendre la place de l'homme tout court. Pour faire simple, on a un thème ancien. Et dans les années 80, survient le steampunk, qui est un genre qui n'a pas de règles, pas de formes, vu qu'il va utiliser les formes existantes, ici la science-fiction, là le policier, ailleurs le fantastique ou le merveilleux, pour mettre tout cela à sa sauce. Pour terminer avec ce petit préambule, je rappelle encore que le steampunk ne se trouve pas que dans une seule dimension. Il apparaît en littérature, bien évidemment, mais aussi en jeux vidéo, jeux grandeur nature, jeux de rôle, en bande dessinée, en illustration, en musique. Donc on a vraiment une exploration qui va mêler et fusionner tous les arts, à tel point que l'on peut trouver maintenant très facilement sur Internet un créatif qui s'est amusé à détourner un R2-D2 façon steampunk, Robbie le robot façon steampunk ou le Terminator steampunk, quand c'est pas Iron Man steampunkisé.
L'une des figures du robot qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est le robot du 19e. Comme l'a dit Étienne, le robot en littérature est arrivé en 1923. Qu'est-ce qu'il y avait juste avant le robot? C'est la figure de l'automate, qui est l'une des figures les plus importantes pour le steampunk. Je veux juste rappeler aussi que des robots et des automates dans le mouvement steampunk, dans la littérature en particulier, il n'y a pas foison. Les pères fondateurs, si je ne m'abuse, n'ont pas mis d'automates vraiment dans les trois premiers ouvrages. Cette figure de l'automate est une figure très ancienne, déjà bien avant le christianisme, On avait déjà les premiers automates, les précolombiens, les chinois, les égyptiens avaient l'habitude par exemple de nommer le pharaon par une statue mécanique qui allait le désigner dans la file des prétendants. Il y a eu un second souffle ensuite avec le développement de l'horlogerie qui a vu apparaître ce qu'on appelle les jacquemarts. Ce sont ces personnages qu'on trouve sur les façades et frontons de certaines bâtisses qui sonnent des cloches à des heures précises. Et un peu plus tard, avec le siècle des Lumières, l'automate devient un peu une curiosité scientifique, notamment par un scientifique qui s'appelait Vaucanson, qui est un des personnages en fait, du roman de. Aussi un personnage du roman de Xavier Mauméjean,
La Vénus anatomique.
Donc voilà, l'automate était une simulation du vivant. Vaucanson avait imaginé un canard qui faisait lui-même la digestion. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'automate est une simulation mécanique du vivant et de l'être humain.
Là, par exemple, quelqu'un comme Pierre Jacquet de Rose avait fabriqué des automates. Il y avait l'écrivain, la musicienne, le dessinateur. C'est-à-dire que l'automate, une fois en route, réalisait une œuvre. Si vous avez vu Hugo Cabret, on est exactement dans cette lignée-là où l'automate, une fois réactivé, va au bout de sa programmation et peut accomplir quelque chose.
Et délivre un grand secret. Au XIXe siècle, on a une vulgarisation de l'automate qui devient un objet, qui devient un jouet, un objet et aussi un objet publicitaire. La fin du 19e, c'est l'aube de la transformation de l'automate en robot, notamment avec la deuxième révolution industrielle. Cette deuxième révolution industrielle, comme je vous dis, transpose l'automate en robot car il lui donne une autonomie. Pourquoi l'automate fascine-t-il les steampunks de tout poil? Tout simplement parce que l'automate, c'est une machine. Et que la machine est une des figures elle-même, l'une des figures principales du steampunk. Certains théoriciens, si on peut parler théoriciens dans le steampunk, estiment même que s'il n'y a pas la machine dans certains romans, c'est tout simplement pas du steampunk. Donc, on écarte toute la partie un peu steampunk fantasy. Pourquoi la machine? La machine, tout comme l'automate, libère l'homme de ses contraintes. Et on est vraiment dans une période très positiviste. On est dans cette période qui voit la science comme l'avenir de l'homme en bénéfique. Cette période va terminer assez durement en 14 dans la boue des tranchées, où là on apprend que la science et la machine peut aussi provoquer l'extinction de l'homme. Cette machine et cet automate, c'est aussi l'homme qui garde le contrôle sur la machine. C'est la bidouille, c'est le cambouis, c'est la machine qui est réparable grâce à quelques engrenages. Donc dans le steampunk, on voit bien cette possibilité, même par petits bouts. On assiste par exemple dans l'ouvrage de Bacalo avec le comics steampunk à la résurrection d'un homme grâce à une sorte d'implant mécanique qui lui reprend tout le bras et qui va changer même son cœur en fournaise. Et donc, excusez-moi. Et donc, c'est la série qui s'appelle Steampunk de Chris Bacalo. C'est un comics américain.
D'ailleurs, dans cette série, je peux pas dire la résurrection de Napoléon est quand même vachement plus classe que juste le côté par le
mécanique. C'est, mais sa résurrection est aussi faite grâce à cet implant biomécanique. Ce côté bidouille de presque bidouille de l'humain, qui est un thème très actuel. Est hérité en fait du mot punk, du steampunk, qui prône le do it yourself, la bidouille des, du mouvement punk des années 70. Et donc voilà, la machine dans le steampunk est une machine, est un robot qui se doit d'être réparable et perfectible. Si l'on prend quelques figures connues, comme par exemple la figure de l'automate dans Les Confessions d'un automate mangeur d'opium, on voit bien ce robot, cet automate perfectible, il prend vie grâce à l'esprit d'un ancien soldat britannique qui est torturé, qui intègre ce robot et qui lui donne une nouvelle vie. Tu veux enchaîner sur d'autres figures ?
Parce que, en fin de compte, on peut découper le thème du robot en trois. Il y a donc le robot automate, qui est donc programmé pour réaliser une activité de façon mécanique. Il y a le robot qui, lui, va être réalisé à l'image de l'être humain. Et il va y avoir l'être humain robotisé, le cyborg. Donc on a toute une gradation qui va nous amener progressivement de la machine strictement horlogère à une incorporation de l'être humain. Par exemple, quand tu évoquais la Vénus anatomique de Xavier Mauméjean, c'est donc ça se passe pendant le siècle des Lumières et il y a un concours qui vise à créer le nouvel Adam. Et on va réunir les plus grands scientifiques de l'époque pour qu'ils réussissent à créer la vie. Et ce que permet de faire le steampunk, c'est justement de poser le problème historique de l'automate, donc créer le simulacre du vivant par des sources mécaniques. Mais ce que fait Mauméjean, c'est qu'il va prendre également le thème de Frankenstein. Donc là, on se rattache au 19e. Et Frankenstein, je vous rappelle tous, c'est le nom du scientifique. C'est pas le nom du monstre qui est anonyme dans tout le livre. Donc Frankenstein, c'est vraiment la chute du scientifique qui veut créer la vie et qui veut faire quelque chose. Voilà, c'est le Prométhée moderne, ça, c'est le sous-titre du livre. Voilà, exactement. Oui, parce que par son comportement
Victor,
Victor, oui, Victor F. Et bon, c'est pour ça qu'il est Prométhée, parce qu'il va tomber. Donc, ce personnage-là ce robot que l'on va créer pour qu'il ressemble à l'homme. En steampunk, on voit qu'on aime bien ça. On va retrouver les robots géants. Alors là, ça va être l'influence du manga. Je ne peux pas m'empêcher de citer le film Sucker Punch. Je ne sais pas si vous l'avez vu, où il y a quand même cette séquence sublime de jeunes filles se battant contre des robots géants, des samouraïs, en pleine Première Guerre mondiale.
Mais voilà, on est un puriste de Sucker Punch.
Ah, quelqu'un qui a vu Super Sucker Punch deux fois.
Non, j'ai vu. Mais juste une, mais les samouraïs, ça intervient avant quand elle récupère son sabre. Et ensuite, c'est pendant la Seconde Guerre. Techniquement, ce serait plutôt la première au niveau esthétique.
J'ai l'impression que Sucker Punch, c'est le nouveau Wild Wild West. Tout le monde l'a vu, mais personne n'ose. Hein.
Ah, Wild Wild West.
Mais moi, j'ai vu la version longue.
De Wild Wild West ?
De Sucker Punch. Donc, il y a cette idée en steampunk qu'à travers cette figure, ce fantasme du robot, eh bien, on va agréger des choses. Donc, dans Sucker Punch, on va agréger le robot géant issu du manga. On va agréger tout cet érotisme un peu adolescent. Et après, on va bien voir ce que le Gloubi Boulga va donner. Que ça fonctionne ou pas, c'est pas autre chose. Le robot géant qui menace Londres en plein 19e siècle, c'est un épisode de Doctor Who récent, avec les Cybermen qui sont en train d'attaquer Londres. Donc, l'imaginaire agite, le mélange des genres s'agite, le steampunk, on mélange, on fusionne. L'imaginaire peut aller de la fantasy au manga, de la science-fiction merveilleux. Ce qui prime, c'est que l'esthétique soit forte, prégnante, et que, que l'ensemble donne une impression de bigger than life, que de sidération, d'étonnement, que ce soit un étonnement visuel, un étonnement narratif.
Ça marche aussi parce que c'est une thématique très actuelle. On voit toutes les avancées dans la robotique aujourd'hui. Il y a un parallèle évident entre le 19e siècle et notre l'époque que nous vivons aujourd'hui. On est en pleine révolution avec Internet dans tous les domaines de la société. La première révolution industrielle a été pour le 19e siècle un bouleversement énorme et on a les mêmes thématiques qui sont transposées aujourd'hui plutôt dans les pays en voie de développement, mais à Londres les enfants travaillaient dans les usines, c'était les débuts de la pollution. Les débuts aussi des très mauvaises conditions de vie. Donc il y a un parallèle entre aujourd'hui et ce 19e siècle qui reste, malgré tout, dans le steampunk, clairement fantasmé.
Et c'est ce que permet de faire le travail steampunk, c'est qu'il va reprendre un cliché, parce que, des histoires de robots, alors de gentils robots, on en a vu des centaines, de méchants robots, on en a vu des milliers. Donc là, vraiment, il est dur de surprendre encore et de faire quelque chose de nouveau. Et en réinvestissant un cadre rétro-futuriste, on arrive à prendre le cliché, à lui donner un peu plus de vitalité, un peu de vigueur, histoire de voir ce qu'il en sort. Par exemple, quand il évoquait le comics steampunk avec ce héros qui se retrouve donc avec un bras mécanique et un four planté dans le torse, on ne peut pas penser à la figure du cyborg. Ça concerne plutôt les vieux gars comme moi, mais ça concerne le personnage de Steve Austin. Mais c'est pas le Steve Austin de l'homme qui valait 3 milliards, c'est le Steve Austin du roman Cyborg, qui est à l'origine de la série télé. Donc le roman que tout le monde a oublié et que les gens devraient lire. Donc un roman de 74, où justement il y a ce long développement où le personnage de Steve Austin, qui se réveille avec des organes, enfin des membres artificiels, commence à sombrer petit à petit dans une espèce de dépression parce qu'il n'est plus tout à fait humain, il n'est plus tout à fait mécanique.
C'est exactement ce qui se passe aussi avec le personnage de Napoléon III dans La Lune seule le sait de Johann Elio. Napoléon III qui est le grand méchant de ce roman, qui est maintenu en vie par une sorte d'exosquelette mécanique et qui est bourré de drogue pour survivre à sa condition de moitié homme, moitié mécanique.
Ce que l'on retrouve aussi dans L'étrange pouvoir de Finley Jane, donc roman publié dans la collection Harlequin, donc du steampunk sentimental, où un des protagonistes découvre que pour le sauver, on l'a transformé à moitié en machine. Et ce qui fait que ce personnage, là encore, doute sur sa propre humanité, et comme il ressemble énormément à Wolverine, enfin à Serval, je ne sais plus comment on l'appelle, il y a donc tout cet effet entre les X-Men, entre le cyborg, entre l'homme qui doute de ce qu'il est, qui est une des rares choses intéressantes du livre.
J'allais te demander justement. Harlequin fait donc référence à Wolverine.
Exactement.
Dans le même thème, vous avez Mathias Codieu avec la mécanique du cœur.
Voilà. Donc là, on est exactement dans le. Mais là, on n'est pas chez Harlequin.
C'est le
chanteur de Dionysos.
Qui fait un parallèle avec l'album.
Je pense à la dernière version de la dernière suite de BioShock, hein, le jeu vidéo, où on a un personnage qui est un cyborg steampunk. On va pas en dire trop pour éviter de gâcher l'effet de surprise. Se pose la question, si on continue un petit peu plus loin, c'est en quoi est-ce que l'homme robotisé devient un homme augmenté, ce que l'on va retrouver en steampunk, mais ce n'est plus se mettre des puces électroniques, ce n'est plus se mettre des implants. Donc ça va être l'homme qui va changer ses membres avec des extensions mécaniques, ça va être les lentilles de visée, ça va être tous ces systèmes-là qui apparaissent.
Toujours dans le gigantisme, on n'est pas dans le discret avec ces implants steampunk. On est dans le gigantisme, le cuivre et et la bidouille et le graisseux.
Mmh. Oui.
Pardon ?
Le terme de bidouille, je le trouve atrocement péjoratif.
Non, enfin, c'est la traduction directe de Tinker, le bidouilleur, qui n'est pas du tout péjoratif pour nos amis steampunk américains. Ce n'est pas du tout le cas, en l'occurrence. Voilà, l'homme...
Oui, en fait... non, mais c'est... voilà, c'est ça. Donc, comme je ne peux pas bidouiller mon téléphone, je n'ai aucun contrôle dessus. Oui, mais ça, c'est du software. Mais au niveau du hardware...
On n'est plus du tout en mesure, notamment avec la cinquième version de ce téléphone à la pomme, qui n'a plus de vis et qui est totalement collé. On ne peut plus le réparer soi-même. L'idée, c'est de garder l'homme garde le contrôle sur sa machine, c'est-à-dire il est en mesure de réparer lui-même ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, par exemple avec les nouvelles voitures bourrées d'électronique, où il faut cette valise pour faire des vérifications. Donc c'est aussi ce côté, le côté punk du mouvement steampunk, c'est cet aspect... en partie, on ne va pas dire développement durable, mais recyclage, réparation. C'est aussi s'approprier la machine. D'ailleurs, le mouvement steampunk n'est pas du tout. Beaucoup de personnes du mouvement des communautés ont tous un téléphone portable, mais ils vont peut-être s'attacher à customiser. Customiser les coques, par exemple, les coques de leur téléphone, comme j'ai vu passer là-bas.
Quand on voit le steampunk anglo-saxon est beaucoup plus politisé au sens d'une conscience écolo-verte. Eux, il y a beaucoup plus cette idée-là, qu'il y a une réaction par rapport à certains excès de notre époque et une volonté de...
D'ailleurs,
de retrouver certaines valeurs.
D'ailleurs, la limite... La différence entre artiste et artisan est très très floue dans le steampunk. Beaucoup d'artistes considèrent leur œuvre ou leur création terminée que si elle est vraiment effective. Si on veut prendre un exemple très simple, voilà, ce jeune homme a une sorte de un Gatling gun fabriqué lui-même. L'intérêt est quand même que ce Gatling gun tourne quand on appuie sur la détente. Sinon, il y a un petit aspect aussi... Il manque un truc. On attend le son avec impatience.
Donc, l'idée, c'est qu'à travers le thème du robot, on voit que la mécanique steampunk est une mécanique qui est, comme cela lui est souvent reproché, une idée de recyclage et de reprise de thèmes antérieurs. Le steampunk ne cherche pas à être sur la frange de la nouveauté, ni d'un point de vue stylistique, ni d'un point de vue narratif, ni d'un point de vue thématique. Il cherche au contraire à retrouver une certaine forme de liberté dans le récit, un retour vers le plaisir pur, simple, immédiat du texte, le plaisir de la grande aventure, le plaisir du mystère, le plaisir du rythme et du mouvement.
Il y a aussi une énorme partie pulp dans le steampunk où on essaie de retrouver cet esprit d'aventure des pulps des années 20.
C'est pour ça que le steampunk est surtout une esthétique. En tant qu'esthétique, il est une boîte à outils qu'un écrivain, qu'un musicien, qu'un artiste plasticien, qu'un concepteur de jeux vidéo peut prendre ou ne pas prendre pour faire sa réalisation. Mais ce n'est pas comme la, comme on a pu connaître, la, ben, on parlait de steampunk, le cyberpunk. Le cyberpunk qui était un mouvement de science-fiction, qui avait des codes, des normes. On était dans le cyberpunk où on était leur ennemi. Il y avait tout un dogme. Pour le steampunk, il n'y a pas de dogme. Le steampunk n'a jamais été défini, n'a jamais été expliqué.
Il n'y a pas de manifeste du mouvement. Et d'ailleurs, la définition qu'Étienne a donnée du steampunk en début de conférence est un peu notre définition commune, qui ne sera pas forcément celle de beaucoup de, d'autres personnes. Comme je vous l'ai dit encore une fois, moi personnellement, j'accepte dans le steampunk des créatures fantastiques ou d'autres formes héritées de la fantasy et du merveilleux, ce qui n'est pas le cas de nombreuses autres personnes qui considèrent que la machine prime, et chacun a donc sa définition. Si vous allez sur le forum français en l'occurrence, vous pourrez voir les longues discussions qui n'en finissent plus sur quelle est la définition du steampunk. Et notamment, il faut arrêter d'en parler. Mais on se rend compte que dès qu'il y a une question un peu intéressante, qui va un peu plus loin, qui gratte un petit peu sur ce qu'est le steampunk, on en revient toujours à un moment donné à cette question où quelqu'un va demander à quelqu'un d'autre, mais alors, mais c'est quoi le steampunk pour toi? Et c'est intéressant aussi de noter.
Je pense que cette question-là est beaucoup plus valable, c'est quoi le steampunk pour toi?
Oui.
C'est quoi le steampunk pour toi?
C'est ce que dit par exemple Mike Perchon, qui est un universitaire canadien qui travaille sur le steampunk en littérature. Et quand on lui a demandé, quand tu lui as posé la question pour le livre, qu'est-ce qu'est votre définition du steampunk, il nous a clairement dit que cette question n'a pas de sens, il vaut mieux essayer de savoir quel est le degré de steampunk dans tel ou tel ouvrage, plutôt que de dire ça c'est du steampunk, ça n'en est pas.
On les catégorise, oui.
Ah, oui, d'accord.
Les micros sont éteints.
On va essayer.
C'est que je ne suis pas un artiste. Moi, je suis. Je ne suis pas un créateur. L'artiste, lui, va créer son steampunk. Moi, je suis du côté du critique, de l'essayiste, et qui regarde après. Et en regardant après, a posteriori, j'essaie de voir une unité, j'essaie de voir une construction, là où l'artiste, lui, se moque totalement de l'unité. Ce qui l'intéresse, c'est sa création à lui. Donc c'est mon regard de critique qui remet un sens là où il n'y en a jamais eu avant. Le steampunk, en littérature, existe depuis plus de 30 ans. N'a jamais été défini par aucun des auteurs qui ont fait du steampunk. Le steampunk fait par des Français n'a rien à voir avec le steampunk fait par des Anglais, et encore moins fait par des Américains. Les Américains prêtent beaucoup d'importance aux fictions populaires américaines des années 18, de la fin du 19e siècle, les Edisonnades. Nous, les Edisonnades, donc c'était les romans populaires qui étaient faits sur des romans de 4 sous qui avaient comme personnage principal Edison. Donc tous ces romans-là qui étaient vraiment faits de la littérature industrielle, en France, on n'en a jamais entendu parler. Tout ce qu'on a eu, c'est Villiers de l'Isle-Adam dans L'Ève Future qui met le personnage de Thomas Edison. C'est tout. Mais... voilà, donc un Américain qui va faire son steampunk, lui, il va avoir sa culture. Il va donc, ces Edisonnades-là, il va y avoir le personnage d'Edgar Allan Poe. Un critique américain va toujours citer Edgar Allan Poe parmi les grandes influences du steampunk. Un critique européen citera Jules Verne et H.G. Wells. j'en ai pas lu qui, dans les 50 premières pages, va développer l'image de Poe. Tandis que si on lit les Américains, eux, ils vont de suite en faire une figure majeure. C'est... Ah non, non, c'est simplement parce qu'il y a, il y a le prisme de sa propre culture. Et que le steampunk est une machine à explorer ma propre culture. Ce qui explique qu'en France, on puisse faire du steampunk qui se déroule en 1910 avec les Brigades du Tigre qui vont arrêter les des voyous du côté de Lille. Mais que ça marchera pas en Pologne, mais en Pologne ils peuvent faire du steampunk qui sera autre chose, en Turquie ils vont faire du steampunk qui sera autre chose, et aux États-Unis, etc. Donc voilà, c'est ce que j'entendais par l'idée qu'il n'y avait pas de dogme, parce que quelqu'un qui lit du steampunk n'a pas besoin de l'apprendre. Quelqu'un qui lit de la science-fiction ou de la fantasy, enfin c'est pas facile, quelqu'un qui n'a jamais lu de science-fiction. Faites lire d'un roman de science-fiction à quelqu'un qui n'en a jamais lu. Il va se dire, car ça, d'un roman de fantasy, il me faut les codes, pour pouvoir, les codes du fonctionnement de l'univers, de cette écriture-là. Tandis que le steampunk, on le comprend de suite. Il y a eu les Mystères de l'Ouest, et steampunk.
Il arrive effectivement très souvent, notamment autour de ce livre aujourd'hui, des personnes qui nous demandaient ce que c'était le steampunk. Et en ayant feuilleté après quelques pages, ils se sont dit, ah oui, en fait, hop, tout de suite, plein de références, les Mystères de l'Ouest, Jules Verne. Il y a un côté, notamment en France, un côté, le steampunk fait un peu partie de l'ADN de la France, parce qu'on est bercé par Jules Verne, par un peu moins par Wells. Voilà, si vous allez à Nantes, les machines de Lille avec l'éléphant mécanique, ça c'est du steampunk. Eux vous diront que surtout pas ça, parce qu'ils n'ont pas envie d'être étiquetés. Mais. Voilà. Mais ils ne croyaient pas au début, ils nous disaient non, c'est pas possible, c'est photoshopé.
N'oubliez pas que Jules Verne est le deuxième auteur le plus traduit au monde, après Agatha Christie. En France, voilà, enfin, on a toujours cette attitude-là où on fait un peu, enfin, presque un peu blasé, hein. Voilà. Et on va dire Jules Verne, c'est pour les enfants. Bon.
Alors oui, ça c'est un autre problème.
Mais il y a certains textes qui ont mal vieilli, mais ça faut pas trop le dire. Mais il y a ça, donc cette idée-là qui fait que je suis pas du tout étonné que Fincher prépare un remake de 20 milieux sous les mers. Avec Brad Pitt, j'espère que ce film sera le premier film steampunk.
Pardon ? Ned est un abruti dans le roman. D'accord, ça colle.
Et j'espère qu'ils nous représenteront le Nautilus tel qu'il est et non pas tel qu'il a été totalement déformé par la version Disney qui n'a rien à voir avec le livre.
Ah, qui joue Nemo ?
Ah, ça on sait pas.
Google.
Un Indien, oui. Ouais. Ah bah tu, oui, oui. Mais non, tout est possible, tout est possible.
On a dévié du robot là.
Là on est parti loin du robot, mais c'est pas grave.
Je rebondis sur le côté dogmatique et je me mets en rapport avec les robots.
Non, c'est trop tard, c'est fini.
À sa petite théorie, qui n'a pas appelé une définition de steampunk, mais qui considère comme un genre qui est athée par réaction justement un petit peu à un obscurantisme religieux qui aurait tendance à revenir. Et c'est vrai que le steampunk, quand on voit le roman de la Vénus de Noémie Jean, qui est situé dans le siècle des Lumières, c'est pas anodin, je veux dire, le côté humaniste qu'il y a aussi dans le steampunk, c'est extrêmement. En tout cas, c'est une extrême réaction justement à les obscurantismes qui perdurent. Jules Verne, lui, quand il assoit la science en disant « Mais non, arrêtez, ça n'a rien de divin, on peut aller sur la Lune, le royaume des cieux est à nous », c'est un petit peu en réaction aussi. Les robots, quand tu disais tout à l'heure que les robots du steampunk ont une particularité, c'est d'être irréparable, c'est bien aussi de rabaisser le robot au niveau d'une création humaine et qui n'a rien de divin, comme par exemple les golems.
automates qui, eux, par contre, étaient, vivaient sous l'action divine, finalement. Donc, ce que lui définit comme le steampunk, c'est justement, en l'absence de dogme, quelque chose de totalement, profondément athée et qui s'écarte complètement de définition sacrée, on va dire.
C'est quel auteur ?
Stephen Hunt.
Ah ouais.
C'est très 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 Hunt, sur les réseaux sociaux, notamment Stephen Hunt. Et qui a écrit pas mal de romans assez courts. Ouais.
Tu l'as lu ça ?
Vraiment super chouette d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Hunt comme la chasse.
Comme la chasse. Ah, ouais. Vous connaissez Stephen comme Stephen King.
Hunt, H-U-N-T. Ouais.
Comme le capitaine.
Pour revenir sur le thème des robots, justement, le côté réparable et fabriquer des robots dans le steampunk, qu'on ne trouve pas dans les, bah, principalement dans les œuvres de fiction japonaises, qui en un peu plus, c'est que la plupart du temps, dans les œuvres de fiction japonaises, c'est jamais le héros qui a construit son truc. C'est il hérite toujours d'un lointain, soit dans le lointain passé, ils ont découvert une technologie qui était sur Terre avant, qui se l'a réapproprié, soit c'est une technologie alien, enfin il y a toujours un hein, toujours le côté, ils la connaissent pas à fond, ils savent pas exactement d'où ça vient, ils n'ont pas de. Il y a le côté, c'est un bouquin de cette pénétration qu'on pourrait faire, qu'on pourrait reproduire.
Mais c'est.
Si jamais elle est cassée, c'est foutu, mais l'humanité est perdue parce qu'on a vu cette super arme.
C'est un peu ce qui se passe dans le roman de Johan Elio, La Lune seule le sait, où. Les extraterrestres ont débarqué un peu avant l'exposition universelle. Ils ont révolutionné toute la technologie. On parlait tout à l'heure de l'exosquelette de Napoléon III. C'est une technologie extraterrestre. Rapidement, dans le roman, c'est Jules Verne qui est envoyé sur la Lune pour aller sauver Louise Michel d'une prison sélénite. Et donc, on ne sait pas, il y a ce mystère de... On ne sait pas ce que l'humanité aurait fait s'il n'y avait pas eu cette technologie. Et surtout, on ne sait pas pourquoi les extraterrestres sont venus pour nous la donner. Et donc ça fait aussi un peu écho à cette idée de la technologie lointaine qui a été retrouvée, où on ne sait pas quoi en faire, on se débrouille avec et on la bidouille surtout. Ce qui n'est pas péjoratif du tout, dans ma bouche.
Et puis l'idée que le... En steampunk, on est quand même dans une tradition qui va être celle du roman populaire, du grand récit, et on se moque de ne pas savoir. On se moque de ne pas savoir comment fonctionne le robot géant. Le principal, c'est que quand je vois le robot géant, je sois sidéré, je sois épaté,
C'est comme dans Grand Fantasy, alors on ne cherche pas à savoir comment marche la magie. De base, elle est là et on l'accepte.
Tandis qu'en science-fiction, on va chercher au contraire...
C'est le côté science de la science-fiction.
Ça dépend
quelle
heure entre la science-fiction basique, les sabres laser, ça nous sait comment ils marchent et tout le monde s'en fout.
Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est un grand débat.
C'est un autre débat. Est-ce que le soap opéra est de la science-fiction ?
Est-ce que Star Wars particulièrement ?
À part dans la hard science, c'est vraiment explicatif. Dans la plupart des univers imaginaires, ils cherchent pas réellement à expliquer le sens justement des déviances qu'on a par rapport à d'autres.
Bah, c'est plus simple effectivement d'accepter comme postulat de base pour ensuite partir dans le récit. Hein.
Ceci dit, c'est intéressant d'un point de vue écriture, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, dans l'écriture, on a tendance à vouloir justifier les choses. On a tendance à vouloir d'expliquer quelque chose alors que finalement, on n'est pas nécessairement obligé de donner une explication à toute chose.
Le principal, c'est que ça fonctionne.
Et voilà.
Et que ça serve l'histoire.
On raconte une histoire. On n'est pas obligé de raconter une histoire avec un robot. On n'est pas obligé d'expliquer comment le robot fonctionne. C'est vrai que ça dédouane, en fait, d'un sentiment d'obligation d'expliquer, et peut-être trop, et de sortir finalement de l'histoire qu'on raconte.
C'est le film Steam Boy. Ah, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc d'Otomo.
Un film d'animation.
Oui, japonaise. Donc là qui se passe en plein 19e siècle. En Europe, avec un jeune garçon ingénieur, brillant, génialissime, qui va devoir choisir entre deux conceptions de la science, celle incarnée par son grand-père, qui est une science humaniste, et celle incarnée par son père, si je me souviens bien, ou c'est une science beaucoup plus utilitariste qui peut déboucher sur des machines de guerre. Et donc l'adolescent est justement porteur d'une technologie qui n'est jamais expliquée et qui permet de faire des choses extraordinaires. Et petit à petit, il va se révéler être un héros et devenir le Steam Boy. Donc je vous recommande de le voir, c'est magnifique. Pour incarner deux images de la science, deux pères différents. Hein, donc le Steam Boy doit choisir qui est son père. Donc il y a cette idée, qui est une vision de se servir du 19e en ce qu'il porte les germes de notre époque, de notre modernité, comme tu le disais, afin justement d'évoquer des thématiques plus larges, plus lâches ou plus générales. Par exemple, si on pensait à la machine à différence, donc écrit à quatre mains par William Gibson et Bruce Sterling, qui imagine justement que une invention qui aurait pu avoir lieu au 19e siècle, la machine à différence, a effectivement été réalisée. Et dans le roman vont apparaître, alors non pas des robots sous forme d'exosquelettes ou de choses un peu science-fictives, mais des machines industrielles gigantesques. Notamment des ordinateurs gigantesques, parce que si vous faites un ordinateur à base de boulons et de rouages, ça va prendre la taille d'un immeuble. Donc il y a cette idée-là de la machine et de la science qui demande à être domestiquée, exploitée et
pour le bien de l'homme.
Pour le bien. Et là, c'est dit avec toute la gentillesse nécessaire, c'est-à-dire sans naïveté, mais avec gentillesse, le bien de l'humanité. Dans le temps qui nous reste, parce que là, avec France, c'est bien, avec vos questions, on est parti sur des choses un peu inattendues.
Non, c'est très bien. Oui.
Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, posez-nous des questions que vous voulez. Ce n'est pas le seul. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait un waouh d'étonnement devant quelque chose de science-fiction. Et là, je peux vous parler de bande-annonce. Qui est-ce qui s'étonne encore? Je sais que dans les années 70-80, il y avait de grands illustrateurs de science-fiction. Et leurs œuvres vraiment étonnées. Aujourd'hui, qui est-ce qui fait encore de l'illustration de science-fiction, si ce n'est pour faire des couvertures? Qui est-ce qui travaille encore l'illustration pure? Quand est-ce qu'il y a eu la dernière fois une bonne annonce de film de science-fiction où les gens ont fait waouh, je sais,
arrête. Sucker Punch.
Ah oui. Enfin. Non, non, mais justement, le steampunk, c'est cette idée de remettre de l'étonnement, remettre de l'émerveillement dans l'imaginaire. Ce que faisait le roman populaire de la fin du 19e au début du 20e, ce que la littérature de genre offre encore, et ici, c'est la volonté de l'offrir, mais puissance 1000.
C'est ce que faisait la science-fiction. C'est ça.
Il y a aussi ce côté.
C'est vrai qu'aujourd'hui, la SF, c'est un peu très. Alors, il y a toujours des très bons romans.
Il faut pondérer. Hein.
Je partage totalement l'avis que l'émerveillement a été perdu largement en route.
Voilà.
Dévoreur de la SF, mais je ne dis que ça.
Je pense qu'il y a peut-être, un aspect aussi panne de l'imaginaire. On défend un peu. C'est un peu le postulat de Raphaël Colson qui a écrit l'ouvrage Rétrofutur au mouton électrique. Son postulat, c'est voilà, à partir des chocs pétroliers, c'est-à-dire les années 70, commence déjà à y avoir une panne de l'imaginaire futuriste. On a du mal à imaginer le futur autrement que post-apocalyptique. Ou alors ces méga corporations. Mais dans les années 80, par exemple, on a un mouvement en France un peu réflexif. On crée un peu partout des écomusées où chaque ville veut conserver son patrimoine. Et dans les années 90, il s'avère que voilà. Maintenant, on est à fond dans le vintage.
Il y a matière à bâtir de l'émerveillement sur des inquiétudes. Et la dernière preuve en date est ressortie au cinéma, Jurassic Park. Je veux dire, c'est Jurassic Park est quand même un roman à la base fondé sur une inquiétude légitime sur la bioingénierie et un film d'émerveillement pur.
Oui.
De Spielberg, de toute façon, c'est un gamin, il sait faire que ça.
Mais là, c'est les années 90 aussi.
Mais voilà. Déjà à 10 ans, quoi.
Maintenant, maintenant vraiment.
20 ans.
On est en 2013. Aussi.
Je suis pas si vieux que ça.
Si on veut parler du cinéma, on a full de préquels, de remakes.
Oui.
Voilà, quand on voit l'un des Tim Burton, le dernier Tim Burton avec Johnny Depp, voilà, c'est juste.
Il n'est pas mort, Tim Burton?
C'est possible.
Non.
Et après Sleepy Hollow, oui.
Il aura mieux fait, peut-être.
Non, mais voilà.
C'est celui qui a fait la planète des singes, oui.
Voilà, encore une fois, le remake de la planète des singes élude totalement le propos de
l'original.
Le propos de l'original.
Donc,
alors que les origines sont vachement mieux.
Ouais.
Mais là, c'est une question d'interprétation, en fait. Là, c'est plus une question d'interprétation de l'œuvre.
Oui, forcément, oui.
La question se pose plutôt, c'est exactement identique à l'histoire originale, sinon il n'y a plus de création.
Oui, mais il faut avoir quelque chose à dire.
Oui, je sais pas.
Voilà.
Parfois ça peut être purement esthétique.
Voilà, oui.
Les folles œuvres originales, je veux dire, si on prend 20 milieux sous les mers, je crois qu'il n'y a pas une seule adaptation, même la plus mauvaise, qui ait raté le côté émerveillement, justement.
C'est d'ailleurs pour ça que.
La version de 1925 était fabuleuse, c'était un des premiers films avec des prises de vue sous-marines.
Celle de 54
Disney, bon, c'est
avec.
Non, mais. Les films avec Michael Caine étaient pareil, c'est horrible, c'était foutable. Voilà, parce que l'œuvre originale avait tout le potentiel d'émerveillement déjà intrinsèquement. Donc c'est. Auteur.
Que le réduit, ça a réussi à m'émerveiller, et même dans la ligue des gens qui ont été grandir, c'est pas.
Il y a un très joli Nautilus.
Ah, ouais. Le Nautilus, il est...
C'est vraiment la seule chose à sauver de ce film.
C'est surtout quand il arrive à sortir un truc de 200 mètres d'eau, d'une petite plaque en bord de côte, là ça m'a fait tout
ce qu'on voit. Non, il est balèze ce moment.
C'est anachronique aussi, c'est marrant. Mais je pense que ça s'est arrêté à la planète 70. Après, il y a...
bien. Ce dont on parle, c'est le recyclage de ce qu'il y avait avant.
Ouais.
C'est-à-dire l'imagination qui s'arrête, on reprend.
Mais c'est, pourquoi ça marche maintenant ? C'est parce que.
Parce qu'il y a encore des grands artistes.
Voilà, c'est pourquoi ça.
Ah, bah oui, bien sûr qu'il y a, bien sûr, bien sûr.
Bandéon, par exemple, qui est, à mon avis, un des plus grands illustrateurs et qui s'est reproduit à la situation actuellement. Tu vois, ces personnages, dans lequel la tête déjà à la fois des machines, je pense qu'il y a un grand illustrateur. Quelques-uns.
Mais, enfin, oui.
C'est vraiment le symbole de la femme.
C'est en attendant autre chose, mais autre chose qui met du temps à venir. Ah mais bien sûr. Est-ce que bah oui.
Ah oui. Le cuivre, ça brille, c'est tellement beau.
Oui.
Non mais
c'est vrai que après 70, on passe sur le
le bouquin 2, pardon.
Oui, sur la pollution, c'est un des premiers bouquins terrifiants. Alors qu'aujourd'hui, il me semble. Ah, ça fait plaisir, quoi.
Mais c'est déjà pas mal.
Ouais, non, d'accord. Les gens que c'est plaisir, vous avez déjà avec les gens qui viennent.
Ouais. Oui. Oui, aussi, enfin, en France, il y en a eu.
Il y en a eu dans les années 90, qui est plus dispo, qui s'appelait Futur Antérieur.
Futur Antérieur. Mais qui, bon, qui vaut pour sa préface, mais qui, le reste, les textes, ont pour certains vieilli beaucoup. Voilà, mais qui n'a pas été suivi d'autres textes. Sinon, il y a une. Ben, maintenant, ils en sont au troisième volume. Aux États-Unis, Steampunk 1, Steampunk 2, Steampunk 3.
Anne van der Meer.
Où là, eux, à chaque fois, dans chaque anthologie, ils font vraiment le point sur le steampunk américain du moment, avec un mélange de textes critiques et de nouvelles.
Avec des thématiques, encore.
Ah, oui.
Oui, effectivement.
Oui.
C'est que, même sans parler de steampunk précisément, mais en uchronie de manière générale, les soumissions de manuscrits, enfin, le nombre de textes est ridicule. Vraiment infime. En 5 ans chez Voyelle, on a peut-être reçu 10 uchronies, à tout casser, ce qui est petite, nouvelle et roman. Donc c'est aussi qu'une anthologie steampunk, oui, ça aurait sûrement beaucoup de. Mais on n'a pas de texte.
Il y a peu de personnes qui écrivent dessus, il y a peu de personnes.
Alors, il n'y a peut-être pas peu de personnes qui écrivent, mais en tout cas, il y en a peu qui écrivent à un niveau entre guillemets professionnel, c'est-à-dire qui soumettent à des éditeurs et qui proposent leur
texte. Il y a aussi le fait que le steampunk n'est pas facilement. C'est pas quelque chose qu'on arrive facilement à placer en librairie non plus. C'est un peu entre les genres. Si on prend l'exemple d'Eclipse, qui est une maison d'édition qui a fermé puis qui a réouvert. a sorti les premiers ouvrages, notamment une traduction de Bone Shaker de Sherry Priest, qui était libellé steampunk à côté de fantasy et de science-fiction. Et c'est aussi en partie pour ça que ça n'a pas tellement marché, c'est que pour le tome 2, ils ont dû rectifier et mettre ça en science-fiction parce que il n'y a pas de place dans le catalogue libraire. Je
non,
pense
en,
que
si. En tant qu'écrivain, je veux dire que l'image est pas mauvaise, mais enfin, c'est vrai qu'il y a déjà tellement de catégories, une seule catégorie dans tous les ménages que dans Créo, juste pour le steampunk, il y a.
Il n'y a pas tellement de production en plus.
Il y a trois bouquins par an.
On va pas. Ouais, c'est ça.
Tout format
de
représentation.
Tout format de représentation, il n'y a pas dans la SD.
Bah si, en BD. En BD, ça marche bien parce qu'il y a l'esthétique qui est. Il y en a un peu plus. Ouais.
Il n'y a pas la place physiquement par rapport au niveau de la vie. Vous avez un catalogue aussi qui s'appelle Maison d'ailleurs.
On nous fait signe qu'il faut terminer. Mais si vous voulez, on peut continuer un peu plus loin là-bas. Hein, on peut continuer à discuter autour d'une bière. Ou d'un thé. Merci.